Bonsoir à tous. Ahlan wasahlan fikoum. J'attends un petit peu que les retardataires s'assoient. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Merci d'être là tout le monde pour cette soirée hommage à la culture syrienne par les livres. Est-ce qu'il fait froid dehors? Non, il fait pas froid dehors? Oh non, j'ai raté mon truc là. Dites-moi qu'il fait froid. Il fait froid, il fait froid. Ok, alors d'habitude quand on a froid aux mains, on fait quoi? Je vais vous demander de le faire avec moi. Mettez vos deux mains comme ça, puis on frotte les mains. Ça réchauffe déjà l'atmosphère. J'en vois qui en font pas derrière. Même si vous avez des livres dans les mains, je vais vous demander de bien frotter les mains les unes contre les autres. Et puis quand on a vraiment froid aux mains, on sent qu'elles se réchauffent vraiment. Et là, on prend son souffle et on met les mains devant notre bouche et on souffle en faisant... Encore. Ça réchauffe les mains, ça réchauffe les mains. Et puis là, on souffle bien en faisant... Et vous savez maintenant prononcer la lettre en arabe. Donc cette lettre-là, ça vient du cœur. Ça fait quoi? Ça fait chaleur, harar. Ça fait amour, hop. Ça fait chéri, habibi. Ça fait himar aussi, exactement. J'essayais de ne pas y penser au himar. Ça fait aussi hummus. Mais toutes ces choses-là, c'est un peu hors contexte. Là maintenant, hop, harara, habibi, halab, hayat, vie, hums. Alors on répète tous ensemble. Et toute cette chaleur-là, on va essayer de l'envoyer en Syrie ce soir. La Syrie qui vit des moments très douloureux. La Syrie qu'on a tous dans le cœur. Que ce soit nous, les Syriens, les non-Syriens et tout. Et pour laquelle on dédie cette soirée. Avec les mots, avec la poésie, avec tout ce qui va s'y passer. Donc je vous remercie encore d'être là. C'est très très très... ça fait du bien. Et on va commencer notre soirée avec... Au début, avec un petit voyage en Syrie, à travers une présentation de, qui s'appelle La mémoire des pierres, qui va être faite par Florence Olivry, qui est juste ici, avec, accompagnée du Oud Adham, qui nous fait la grâce de nous faire la belle musique ce soir. Et on va vous emmener dans un voyage en Syrie, à travers des ouvrages qui sont ici présents ce soir. Et à travers les images de ces ouvrages et des extraits. Alors je vous laisse avec le petit voyage et on se retrouve tantôt.
Poussière. Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Parole prophétique. Se souvenir, plonger, rouvrir le livre du passé. Jadis, il y a bien longtemps, l'eau ignorait le contact du feu, la main de l'homme, le bruit de ses pas, le son de sa voix. Puis l'homme modela la terre, édifia les murs d'une maison, et ses enfants purent alors jouer dehors, à l'ombre, dans la cour. Thank you. l'origine, était l'élément liquide, celui qui donne vie. Il y avait un lac bleu. C'est là, au bord de ce lac, que commence l'histoire. Et c'est là, au bord de ce lac, que se termine l'histoire. Chaque fin de semaine, les eaux baissent. Des bancs de sable ou de galets se découvrent. Des mares se forment aux bras secondaires ou dans les méandres du fleuve. En bas, sur la rive, à côté d'un bosquet de grenadiers, un village blessé à mort attend la montée des eaux. En le quittant, ses habitants ont enlevé poutres, portes et fenêtres, ce qui l'a précipité dans la ruine. Un talus domine une étroite plage caillouteuse. Hugues Fontaine. La réalité est ici partout pareille à l'apparence. Retirez la première couche, celle qui rend visible le pays d'aujourd'hui, et aussitôt paraît un pays plus ancien qui lui-même n'est qu'une couche posée sur un pays encore plus vieux. L'arrachement des surfaces successives est une action qui laisse le spectateur perplexe devant la planéité parfaite des images. N'y aurait-il pas là-dessous d'autres vues ensevelies sous la couche superficielle et qu'il faudrait faire transparaître? Comment parcourir tant de vestiges, trouver sous le pied tant de petits morceaux de vaisselle antique sans rêver à ce qui avait été autrefois? La route montait et descendait, des enfants menaient des troupeaux de moutons sur les chaumes. Le paysage de ce plateau légèrement ondulé étonnait par sa douceur. Puis, je vis l'Euphrate, un bleu turquoise, entre des falaises, une craie d'une blancheur étincelante, une vallée fertile qui contrastait avec l'aridité des plateaux environnants, des rangées d'arbres, des champs et des villages installés à la limite des terres cultivables, sur les terrasses hautes, au pied de l'escarpement. J'arrêtais la voiture. Dans le vaste calme de la vallée, des sons d'une clarté inouïe traversaient l'espace. Avant, après. Lorsque le barrage sera construit, les villages seront engloutis. Paysage destiné à l'effacement. Mirage des images. Pays éphémère. Peut-on faire disparaître un lieu, un paysage, un pays? Certes, de bien des manières. Et sans doute, en l'ensevelissant sous les eaux, dans la mémoire. Enseveli sous les eaux de la mémoire. Bientôt, l'eau recouvrit la terre. Le travail de l'homme fut noyé. Les villages furent engloutis. Alep, alcôve de pierre, pâte fluide, chaude, humide. Dans le secret de certains lieux, à Alep, en hiver, la pierre sert d'écrin à la pâte du savon. Témoin de rituels séculaires, les voûtes procurent à chaque geste gravité et solennité. Le métal, la pierre, la main de l'homme et les fruits de deux arbres, le laurier et l'olivier, sont nécessaires à la confection du savon. La salicorne aussi. C'est un arbuste qui pousse dans le désert et que récoltent les bédouins. En la faisant brûler, on obtient une cendre alcaline. En Syrie, on l'appelle chnan. Savon, salicorne, basalte, calcaire, Alep. Lorsque je suis arrivée à Alep, écrit Françoise Cloaret, la première fois, j'ai eu un sentiment d'appartenance. La Syrie est un voyage extérieur, mais aussi intérieur. Glissements et plongées dans la mémoire, appel du présent. Le réel et l'imaginaire voisine. La déambulation dans la ville a souvent confiné au vertige sur des questions fondamentales. En Syrie, les temps se mêlent et se confondent dans de multiples traces superposées. Le présent cohabite avec les vestiges du temps. Les marques se conjuguent avec subtilité. Les empreintes de la mémoire prennent une forme différente d'ailleurs. Alep, austère, sévère, impénétrable. Ville carrefour, multiple. Jadis, à Alep, en de nombreux lieux, la lumière du matin répandait un parfum d'éternité. Dans les pierres d'Alep, la folie a laissé son empreinte. La folie n'est pas un phénomène nouveau à Alep. La ville a depuis longtemps perdu la raison. Et ces pierres s'étaient efforcées depuis des siècles de la contenir. Mais en vain. Sais-tu comment distinguer le rêve et la réalité? Le rêve est un oiseau. Le réel est un couteau. Des vagues de violence ont déferlé sur la cité. Voici la citadelle retournée à sa fonction première, celle d'une forteresse prise dans une âpre guerre entre frères syriens, un site à occuper et à capturer une nouvelle fois. L'histoire a ses guerres. Derrière elle, les ruines sont innombrables. Mais si lourdes et si élevées que soient les pertes, dans l'ouragan de la vie et de ses transformations, elles ne comptent pas plus qu'un grain de poussière qui taquine le talon de la terre. Le désir de vie respire et sourd à travers les décombres et au-delà des pertes. Nul ne peut empêcher le premier cri de la naissance. Révolution au bout de cendre, traversée vers la lumière, odeur de suie. Et si Alep n'était que le jeu de l'ombre avec la lumière, une ville faite de l'alternance du jour et de la nuit, de deuil et de naissance. Au bord du fleuve, la noria chante. Le crépuscule est l'aube, le deuil puis la naissance. La roue tourne et son chant est la promesse d'un printemps après l'hiver. Mais avant qu'advienne le printemps, lorsque le grain tombe en terre, ne lui faut-il pas mourir afin de porter du fruit ? Malgré la guerre, en Syrie, certaines pierres ont résisté. Le minaret de la mosquée des Omeyyades de Damas s'élance toujours avec ferveur vers le ciel. Et dans la cour, pas une colonne, jusqu'à ce jour, n'est tombée. Bienfaisante verticalité. Le reflet cristallin des colonnes sur le marbre blanc lave le cœur, console, apaise. Ici, en ces lieux, l'oubli du sang versé devient possible. Rêve. Les oiseaux jusqu'à présent demeurent nos guides dans les rêves. Leur blancheur dessine un chemin. Demain, le cœur léger, les colombes prendront leur envol vers le soleil. Et demain, pareil à l'olivier millénaire, les Syriens se tiendront debout. Et demain, pierre après pierre, main dans la main, ils se mettront à reconstruire le pays.
J'étais là par hasard, j'attends la maître de cérémonie.
La maître, la presse, mes amis, mais je viens qu'on me prenne au féminin.
Merci beaucoup, Youssef. Merci à Florence, merci à Adham. Donc, Florence et Youssef sont deux des membres fondateurs de la Maison de la Syrie. On va présenter tout le monde tantôt. Alors, après ce petit voyage à travers les pierres et la mémoire de Syrie, je vous convie toujours à garder votre beau et précieux silence. On entendrait une mouche voler. Et maintenant, à quelque chose qui s'appelle une jalsé. Une jalsé, ça veut dire on s'assoit ensemble, doucement, on écoute encore, on ressent notre chaleur ici présente. Et puis maintenant, on va présenter quelques livres qui sont ici présents. Dans le rayon Syrie de la librairie Olivieri. Je tiens à vous dire que ce rayon Syrie va être présent encore un an ici. Donc vous pouvez vous procurer beaucoup de livres sur la Syrie. On a un gros répertoire. Et ce soir, si ce soir vous achetez des livres, vous avez un 12% en tant qu'invité et en tant que présent à cette soirée-là et invité de la Maison de la Syrie. Donc vous aurez un 10%.
Le temps des fêtes s'en vient.
Oui. Oui, non, il a tout à fait raison. Donc, le temps des fêtes s'en vient, les anniversaires s'en viennent et tout ça. Bon, j'ai fait la petite partie commerciale maintenant. Maintenant, on revient au livre, on revient aux mots. Donc, on va pouvoir aller d'un auteur à l'autre et découvrir un petit peu de la littérature syrienne ou de la littérature sur la Syrie. On va commencer par... J'arrive tout de suite, attendez-moi. Un livre, on va lire, d'un auteur syrien qui est né en 932 et qui est mort encore jeune en 968. C'est un poète très connu de la période de l'ancienne Syrie. Il s'appelle Abu Firas al-Hamadani. Donc Abu Firas al-Hamadani, juste pour vous présenter un petit peu qui il était, était un prince de la famille Hamdanite, dont l'un des membres, son cousin Saif ad-Dawla, à Alep, on a des bus qui vont à une région qui s'appelle Saif ad-Dawla, mais Saif ad-Dawla régnait sur la Syrie du Nord et la haute Mésopotamie au 5e siècle. Au 10e siècle ? 10e, c'est ça, X-ième. Donc, gouverneur de province et engagé en tant que tel dans les interminables guerres contre les Byzantins, il incarne dans l'histoire de la poésie arabe le personnage. C'est un des mythes de la poésie arabe ou une des figures un petit peu des archétypes qu'on a, c'est le personnage du preux chevalier doublé d'un poète qu'on dirait parfois pré-romantique. Donc dans ce livre-là, dans ce recueil de poésie, c'est son plus connu qui s'appelle les Rumiyat, en français les Byzantines. Elle constitue la partie la plus justement célèbre de son œuvre, composée durant sa captivité à Constantinople. Il y exprime avec une poignante simplicité sa nostalgie du pays natal, décrit ses lourdes chaînes de prisonniers, évoque douloureusement le souvenir de sa vieille mère et reproche à ses amis de ne pas chercher à le libérer. Donc je vous laisse avec Émile qui va nous lire un extrait de ce grand, grand poète arabe et syrien.
Vers qui d'entre vous mes pensées ? Auquel de vous mon souvenir ? Que de temps passé à gémir ? Ô pays, que je t'ai pleuré ! Alep abriterait mon honneur, mes fidélités et ma gloire. Manbij, celle dont le bonheur mettait le trésor le plus rare, dont la tendresse vous grandit, ennoblissant tout être humain. Et puis les enfants, ses poussins, les préférés, les tout-petits. J'ai accroché tant d'amitié aux verts rameaux de mon enfance que je peux imaginer à mes côtés la vraie présence. La nostalgie est toujours là et les larmes sans rémission. Les larmes, ah, certes pas, quelque chose à terre, mais non. Je dois refouler mes sanglots, tenir mon secret bien gardé, craignant par trop ces vilains mots. Tu n'es pas un homme à résister, fou que je suis, sans entrevoir de répit à ceux qui me hantent. Et quel est donc ce désespoir, là, sous mes yeux, qui m'épouvante? Celui qui vient de m'y soumettre, ne pourrait-il le dispérer? Mais si, j'ai un souverain maître qui donne tout sans lessiner. Si mes péchés sont innombrables, que dire alors de ses faveurs? Si j'en suis là pour mes erreurs, sa grâce, elle, est inépuisable.
On va accueillir maintenant notre ami Youssef qui va nous lire un texte extrait d'un roman qui s'appelle La coquille de l'écrivain syrien Mustafa Khalife.
«
nous sommes arrivés sur ce carrelage lustré. Il m'a entraîné dans le couloir de droite jusqu'à la dernière pièce, m'y a fait entrer et ressorti et a refermé la porte sans dire un mot. Il y avait là une table et une seule chaise. Un homme d'une quarantaine d'années est entré avec une pile de feuilles vierges et un stylo à billes. Il m'a demandé si j'étais bien un tel. J'ai dit que oui. Il a posé les feuilles et le stylo sur la table et m'a dit de m'asseoir. Je me suis assis sur la chaise derrière la table. C'était la première fois en 12 ans que je m'asseyais sur une chaise. Voilà des feuilles et un stylo. Tu dois raconter l'histoire de ta vie, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Compris? Oui. Il est sorti, j'ai commencé à écrire, à me remémorer et à écrire. Je me demandais, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Je n'en savais rien. J'écrivais. 1 heure, 2 heures. Je continuais à écrire. La porte s'est ouverte 2 fois. Quand ils m'ont vu tout absorbé dans ma tâche, ils sont ressortis sans rien dire. J'écris. Un stylo, une feuille de papier. Cela m'avait manqué pendant toutes ces années. Des choses ordinaires, évidentes, toujours à portée de main. Pourtant, quand vous ne les avez plus, vous vous mettez à penser. Combien de temps a-t-il fallu à l'humanité et d'efforts pour arriver à inventer le papier ou ce stylo avec lequel nous écrivons si simplement? Comme ils me sont précieux. J'écris. Je cherche les petits détails. Je me remémore les écoles où j'ai étudié, ma famille, mes amis. Je commence à y prendre du plaisir. Je ne veux plus quitter cette feuille et ce stylo. L'homme qui m'avait amené ici est revenu. Il m'a regardé fixement. Si tu écrivais l'histoire du monde, tu aurais déjà fini. Bon sang, comment ça se fait que t'es pas encore fini? Donnez-moi encore quelques minutes. Quelques minutes plus tard, je lui ai rendu les feuilles et le stylo. Reste ici. Il est reparti pour revenir un peu moins d'une heure plus tard avec un homme à l'air imposant. C'est lui qui tenait à la main ce que j'avais écrit. Il m'a regardé un peu avant de dire « Toutes les tartines que t'as écrites, ça va te faire manger de la merde. Tiens, voilà d'autres feuilles et un stylo. Recommence. Ce qu'on veut, c'est de l'essentiel et que ça se tienne. » Ils ont jeté le stylo et la feuille sur la table et sont ressortis. Je me suis remis à écrire avec le même plaisir. J'ai repris ce que j'avais écrit avant. Je n'avais rien de nouveau. J'étais sincère dans tout ce que j'avais pu écrire. On m'avait demandé de raconter l'histoire de ma vie. Je la leur avais rédigée sur plusieurs pages. Tout ce que j'avais écrit était vrai. Je n'avais rien à cacher, rien dont j'avais peur de parler. Pourquoi me demandait-on de recommencer? Je n'avais aucune idée. Une fois encore, ils ont emporté ce que j'avais écrit. Moins d'une heure plus tard, le premier homme est revenu et m'a dit « Allez, file. » Nous sommes repartis de la même manière et je suis rentré dans ma cellule.
Juste pour vous dire, c'était un texte de Mustafa Khalife qui est né en 1948 à Jarablus et ce texte a été publié en 2007. Il raconte 13 ans de détention dans les prisons dans ce livre-là. Thank you. pour continuer sur une note un peu plus joyeuse, je vais vous présenter un poète syrien connu, très connu, qui s'appelle Nizar Qabbani. Il est né le 21 mars de 1923 à Damas et il est mort le 30 avril 1998 à Londres. Sa poésie casse l'image traditionnelle de la femme arabe et invente un langage nouveau, proche de la langue parlée et riche de nombreuses images empruntées au monde de l'enfance. Nizar est considéré comme l'un des plus grands poètes contemporains de la langue arabe et son plus grand mérite serait peut-être d'avoir rendu la poésie compréhensible par tout le peuple et pas seulement par une élite. J'invite quelqu'un, une amie de la Maison de la Syrie, à venir nous réciter un texte de Nizar.
Je vais le dire en arabe. لم أعد داريا إلى أين أذهب كل يوم أحس أنك أقرب كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخصب وتصير الأشكال أجمل شكلا وتصير الأشياء أحلى وأطيب قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب اعتيادي على غيابك صعب واعتيادي على حضورك أصعب كم أنا أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب يسكن الشعر في حدائق عينيك فلولا عيناك لا شعر يكتب.
Une. Ah, parfait. C'est encore mieux. Là, vous m'entendez ? Ouais ? Je dois pas trop crier. J'ai dans la main un livre assez brûlant qui s'appelle « La preuve par le miel » par la poétesse et romancière syrienne Salwa Naimi qui l'a écrit en 2008. En fait, il a été publié en 2008. C'est une méditation sur le plaisir et sur la liberté endiablé par la lecture des grands textes érotiques de la littérature arabe ancienne. Alors c'est l'histoire d'une intellectuelle syrienne qui se passionne en secret pour l'étude des traités érotiques arabes anciens, parce qu'ils existent et c'est abondant dans la littérature arabe ancienne, jusqu'au jour où elle est très officiellement invitée à participer à un colloque sur le sujet. Alors c'est l'occasion pour elle de faire une espèce de petite... de raconter sa vie, de raconter des témoignages, de raconter sa vie amoureuse aussi... Et à travers ce petit livre qui est très brûlant et qui a été interdit dans plusieurs pays arabes. Ici, c'est pas interdit, je vais vous en lire un extrait. Mais là, il faut être en condition, c'est pour ça que je me suis assise. Je suis une créature linguistique Je le découvre chaque jour davantage. La langue me prend dans ses pièges, me contraint à écouter ses voix, à contempler ses couleurs, à sonder ses profondeurs. Aussi suis-je prise de dictionnaires en tout genre. Je les consulte sans modération et mes interrogations n'ont pas de fin. À peine ai-je prononcé un mot nouveau que je le dissèque à la recherche d'une racine qui me livrerait son origine, ses dérivés et ses diverses significations. Je m'essaie à en inventer dans une langue qui n'appartient qu'à moi. Hier, le voyageur m'a révélé sa devise. Je baise, donc je suis. Il me la livre en français, dans la langue de Sade. Je la prends comme une boutade et je répète après lui en riant. Quand il parle en arabe, le voyageur utilise ce verbe à la forme passive. Je suis baisé. Cet emploi dépréciatif m'étonne de lui, car il se présente comme un baiseur invétéré dans ses histoires. Il me vient à l'esprit que moi, j'aime ce verbe seul et libre. Baiser. Point. Je baise, donc je suis. Pourquoi ne puis-je le dire ni l'écrire en arabe ? En arabe, de nos jours, le mot « baiser » est banni. Le mot est un péché, alors même que l'acte est légitime. Cette hypocrisie me rappelle les écrits de Al-Jahez, grand écrivain du 9e siècle. Je veux dire, lorsqu'il est question de con, de bite et de baise, ceux qui se prétendent ascètes et abstinents font mine d'être dégoûtés et se renfrognent. La plupart sont aussi pauvres en savoir, générosité, noblesse d'âme et dignité qu'ils sont riches en fausseté et fourberie. Ces mots ont été inventés pour être employés. C'est un non-sens que de les inventer pour ne pas les utiliser. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de le dire là tout de suite. Là. Je traduis en arabe la phrase du voyageur. Je baise, donc je suis. Je baise, tu baises. Je conjugue et je fouille les champs des dérivés. Sur mon écran, le correcteur orthographique a souligné tous les mots en rouge. Il ne les connaît pas. Lui aussi est programmé pour la dissimulation. Cet ordinateur est une oie blanche, un eunuque plutôt, qui a castré la langue, qui a castré l'ordinateur, qui m'a castré. Alors, je vais vous lire un tout petit autre morceau que j'ai trouvé dans le livre que j'aimais beaucoup. Sur les livres, sur ce qu'on peut retrouver dans les livres érotiques anciens, justement. Alors écoutez, c'est vraiment... J'ai jamais lu ça, même pas dans Playboy, là. Les livres érotiques anciens nous ont transmis les histoires de Huba, de Médine, dame fameuse qui n'épargnait ni les hommes ni les femmes. On raconte qu'elle avait dit ceci à sa fille. N'oublie surtout pas de gémir en baisant. Sache qu'un jour, j'ai poussé un tel râle dans le désert que les chameaux du calife Osman ibn Affan, que Dieu le garde, ont fui en tous sens et qu'ils ne se sont plus jamais rassemblés. Nos grands-mères étaient plus fortes que nous. Elles conjuguaient les deux gloires. On dit à un homme, « Ta femme aime les femmes. » Il répond, « Je lui ai ordonné. Cela est bon pour elle et purifie l'ouverture de son sexe. Ainsi, lorsqu'un membre s'y introduit, elle sait mieux l'apprécier. » Est-ce vrai de nos grands-pères aussi ? Qu'ils reposent en paix. Alors, puisqu'on est dans le sujet maintenant, on va passer à une autre genre de sensualité. C'est la grande sensualité syrienne et de la ville d'Alep. C'est quoi ? La bouffe, ouais. La bouffe ! Merci ! On va y applaudir pour la bouffe. Donc j'ai un livre qui est écrit par une des fondatrices de la Maison de la Syrie, Florence Olivry, ici présente, que vous avez écouté, qui s'appelle « Les secrets d'Alep ». Alors, Florence Olivry est une spécialiste de la Syrie et de l'histoire religieuse du monde musulman. Elle a publié « Les secrets d'Alep » en 2006 et « La soie et l'Orient » en 2011. Ces deux livres se retrouvent ici. La tradition culinaire alépine compte incontestablement parmi les plus raffinées et sophistiquées du monde arabe, à l'égal de celle de Fès du Maroc. Cet ouvrage, c'est le premier qui lui soit entièrement consacré. Il y en a eu d'autres après, mais c'est le premier. Il est fondé d'une part sur les sources écrites disponibles en langue arabe et d'autre part sur une enquête auprès des meilleurs cuisiniers et cuisinières de la ville. Alors je vais vous en lire un extrait que j'affectionne particulièrement sur la confiture de rose. Pendant le mois de Marie, paraissent au hasard des rues des femmes vêtues d'une toge bleu pâle, ceintes d'un cordon blanc et les cheveux parfois couverts d'un voile blanc. Les chrétiennes peuvent choisir à tout âge de revêtir pour un mois la simplicité de cet habit marial. Le mois de mai est dévolu à la Vierge, alors submergée de fleurs dans toutes les églises de la ville. Le temps de la confiture des roses est annoncé par les étameurs ambulants qui sillonnent les rues en clamant « M'boyed, m'boyed !» Les marmites et autres réceptacles de cuivre lui sont confiés pour être revêtus d'une couche de métal étincelante. Les voici prêts à recevoir la fameuse confiture de roses, « Wered Juri ». Les souks fleurissent, embaument et se parent de montagnes de fleurs d'un rose délicat. L'époque des roses, belle et fugace, commence la deuxième semaine de mai et s'achève à la fin du mois. Chaque famille consacre une journée à l'ensevelissement et à la cuisson des précieux pétales dans le sucre. Chez Salem et Magda, le couloir embaume agréablement. Dans le salon, sur la table recouverte d'un drap blanc, s'élève une pyramide de pétales magenta. Avec Magda et ses deux filles, nous trions un à un les pétales en prenant soin de chasser les promeneurs inopportuns et de retirer un étroit fragment vert à la naissance des pétales. Salem, inspiré par la cérémonie, joue au piano « La vie en rose » et tout plein de vieilles chansons d'amour d'un autre temps. Le pianiste, sous le charme des effluves du parfum, se laisse aller à une ineffable nostalgie et devient dangereusement sentimental. Les pétales sont passés au tamis et ainsi débarrassés du pollen. 1 kilo de pétales de rose nécessite 1 verre de jus de citron. Ce jus est versé dans un grand saladier. Puis une première poignée de pétales de rose est plongée dans le liquide. Nous pétrissons les parcelles de fleurs à pleine main. Elles boivent le jus de citron et dégorgent leur couleur. Le jus de citron prend une teinte magenta. Les pétales pâlissent, se froissent, se déchirent et leur texture devient bientôt comme de la pâte à papier. Le volume des pétales s'amenuise. Petit à petit, la montagne de pétales tout entière se loge miraculeusement dans le saladier. Les boules de pétales sont pressées, égouttées, puis disposées dans une grande marmite. Les pétales sont arrosés 1,5 litre d'eau, se défroissent et cuisent sur un bon feu. Après le premier bouillon, l'évaporation commence. On ajoute alors 3 kg de sucre ainsi que le jus du citron coloré. À présent, Salem et Magda tiennent à deux la grande cuillère à confiture et parlent du temps où ils étaient fiancés. Je m'éclipse alors sur la pointe des pieds, laissant la vapeur d'eau de rose à sa besogne de rafraîchissement du cœur. Lorsque c'est prêt, Magda m'autorise à revenir et à suivre la suite des opérations. La confiture est d'une belle couleur, prune magenta. Dès que la confiture est prête, elle trouve place dans une assiette tricolore. Véritable icône du printemps à l'épin. Le rose de la confiture, la blancheur du fromage frais et le vert tendre des petits concombres de saison. C'était un extrait de la confiture de rose. Les alépines qui font et que font bonne nouvelle alors pour nous, je change de micro. Donc bonne nouvelle, on est le restaurant Le Petit Alep nous offre des petits mésés à déguster entre nous. Donc avant de se lever tous pour aller déguster, parmi les mésés, il y a quelque chose qui s'appelle Mhammara, où il y a la lettre Mhammara, et qu'on mange avec du hummus. Donc, J'ai trouvé la recette du mhammara, je vais vous la dire rapidement. C'est un secret, hein. Crème aux noix et au piment. Mhammara. Ingrédients pour 4 soucoupes de mézé. 200 g de piment rouge entier, séché. 200 g de chapelure de kaki ou de pain blanc. 2 cuillerées à soupe de sucre. 1 cuillerée à café de tahine, c'est-à-dire le beurre de sésame. 2 cuillerées à café de cumin. 200 g de noix hachées. Jus de 2 citrons. 1 cuillère à café de mélasse de grenade. 1 cuillère à café de sel. Et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Extra vierge, c'est mieux. Faites fondre les piments au bain-marie, puis écrasez-les au moyen d'un pilon. Vous pouvez ainsi utiliser... vous pouvez aussi, si vous n'avez pas les piments séchés au soleil, utiliser 200 g de concentré de piment. Mélangez tous les ingrédients, versez un peu d'eau, petit à petit, ça c'est très... dans la lettre, petit à petit. Vous pouvez demander à votre fille de venir, petit à petit. La chapelure boit l'eau jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Et vous décorez avec des noix ou des pignons, un peu de mélasse de grenade, une olive noire, quelques lamelles de piment, vous arrosez d'huile d'olive et vous servez froid. Vous dégustez avec du pain, de la mortadelle ou du hummus. J'en profite pour vous remercier encore d'avoir été là et remercier la librairie Olivieri pour son chaleureux accueil. Remercier tout le monde de la Maison de la Syrie et tous les gens qui ont travaillé avec nous. Émile, Marie, Youssef, Adham, Nouhad, Florence, en fait tout le monde, vous êtes magnifiques, vous êtes là.
Maria.
Maria.
Ah. Alors je vous rappelle le dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je vous rappelle le 12% pour les cadeaux de Noël. Hein?
Je vais juste en profiter pour une petite anecdote. Il y a un an environ, je cherchais un cadeau à offrir à quelqu'un et je voulais lui offrir un livre sur la Syrie parce qu'il aimait l'histoire. Et j'ai fait quelques librairies à Montréal et ce que je trouvais n'était pas intéressant. Oh, non, c'est pas vrai. C'était intéressant, mais pas. Il n'y avait pas de diversité, il n'y avait pas de choix. Quand. On a travaillé sur le partenariat avec la librairie ici, que je suis venu pour la première fois voir tous les livres un à côté de l'autre. Je suis vraiment pas quelqu'un de patriotique, je suis pas nationaliste, surtout pas chauviniste, mais quand j'ai vu tous ces livres-là rassemblés, j'étais vraiment content et fier aussi, parce que malgré tout ce qui se passe, il y a quelques trucs positifs qui sont capables d'en ressortir, dont la soirée ce soir. Donc, j'étais vraiment content de voir ces livres. Et voilà, je voulais juste parler de cette anecdote parce que maintenant, on trouve toute cette beauté réunie ensemble. Donc, merci à la librairie Olivieri qui nous offre cette possibilité. Puis, c'est quelque chose de beau à Montréal, je pense. Et j'en profite alors pour remercier aussi Tarek, qui vous avez vu à la vidéo et qui est derrière maintenant. Donc pour T-Rex Productions, il a accepté très gentiment de filmer la soirée. On va la mettre bientôt sur notre site web. Ah, ben justement, parlant du site web, je pense qu'on travaille beaucoup en arrière de ce qu'on voit ici. On le fait principalement bénévolement et c'est sûr que... de l'argent pourrait aider. Mais le plus important, je pense, c'est ce côté plutôt de rassemblement et de partage de cette culture-là qui, à long terme, va jouer un rôle super important et ça commence maintenant. C'est un peu notre philosophie à la Maison de la Syrie où est-ce qu'on utilise la culture comme moyen de sensibilisation et moyen d'humaniser des fois ce qu'on voit à la télévision ou sur Internet. Certains peuvent se demander si notre travail est pertinent. Certains se demandent si c'est ça qu'il faut faire maintenant. On est très conscient du fait qu'il y a différentes priorités. Il y a des choses à faire à court terme, à long terme, et on pense que parallèlement, de façon complémentaire, ces travaux-là sont tous importants. Donc oui, la culture, mais oui, l'humanitaire. Donc, ça se complète et on travaille là-dessus. Donc, je vous invite à visitez notre site web si vous ne l'avez pas déjà fait, lamaisondelasyrie.com. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter. Je vais mettre des photos, vous taguerez. Donc, juste en parler pour nous, c'est vraiment... déjà que vous soyez ici, c'est vraiment le fun. Mais que vous nous aidiez à partager cette culture-là, ça va nous faire très plaisir. Je pense qu'à à l'entrée, il y a des petits signets préparés très soigneusement quelques minutes avant d'arriver ici. Petit rush de dernière minute, mais des signets qu'on vous invite à prendre avec vous, que ce soit pour les livres que vous achèteriez ce soir ou pas, et qui vont donc encore une fois propager cette culture autour de nous. Donc, merci à Adam aussi, au Oud. Et au début, ceux qui étaient là, vous avez peut-être entendu une musique de Lena Chamamian, et vous avez vu l'affiche. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on est aussi partenaire avec le Festival du monde arabe qui se déroule présentement. Et le concert final, donc le 9 novembre à 20h à la Place des Arts, on est très fiers d'être partenaire officiel de cet événement-là. C'est un concert dédié à la Syrie. Donc, Yamal El-Sham, on vous invite à justement visiter notre site web. On a conçu toute une idée autour de cette expression-là. Donc, le concert lui-même s'appelle Yamal El-Sham. Et puis, c'est le 9 novembre, entre autres avec Lena Chamamian, que peut-être les arabophones connaissent. Il va y avoir aussi Nasir Shamma de l'Irak et Sharbel Rouhana du Liban, avec l'ensemble Octo-Ecto. Qui lui est québécois. Et donc, c'est vraiment le fun de voir rassembler un artiste syrien, libanais, irakien. Donc, avec la musique cette fois-là, on brise les frontières, on se réunit pour une même cause. Les origines importent peu, ultimement, c'est la musique qui importe. Donc, on vous invite le 9 novembre à venir à cet événement, ce concert qui devrait être fort, fort intéressant.
Oui, en fait, on va juste introduire le concours. Est-ce que tu voudrais en parler, Florence? Ok, je vous laisse avec Florence qui va introduire une très belle activité qui se fait en ce moment pour les enfants de Syrie.
Alors, la librairie Olivieri est également partenaire d'un projet franco-canadien qui s'appelle « Mille et une cartes pour les enfants de Syrie ». Donc, c'est un concours de création de cartes postales qui est ouvert encore pendant 5 jours seulement, c'est-à-dire jusqu'au 10 novembre. Donc, vous pouvez participer au concours si vous avez des talents d'artiste ou de photographe jusqu'au 10 novembre en envoyant votre carte postale pour le concours. Et ensuite, il y aura la délibération du jury à l'Institut du monde arabe à Paris, avec un jury assez prestigieux, avec Abdelwahab Medef, Farouk Mardambé, la chanteuse Noma Omran. Et puis, les cartes seront en vente à la librairie Olivieri à partir du 30 novembre. Et ces fonds iront pour des projets humanitaires pour les enfants de Syrie. Donc, vous pourrez retrouver les 20 cartes gagnantes du concours à la librairie Olivieri, ainsi qu'au restaurant Alas H, près du métro Guy Concordia. Donc, vous pouvez retrouver ces flyers à la caisse de la librairie, que nous remercions d'être notre partenaire pour ce projet. Merci beaucoup.
Yalla, on peut se lever, on peut manger. Merci encore beaucoup.